des livres,
de la musique,
des jeux,
du cinéma,
des animations,
des événements,
des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.
Bonjour Pauline.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour Olivier.
Bonjour Jacqueline et Pauline.
Et bonjour Olivier.
Eh bien, nous sommes à la 8e émission de L'eau à la bouche. Alors, pour commencer, aujourd'hui, avec Pauline, nous allons vous parler d'un roman qui s'appelle « Le temps où nous chantions » de Richard Powers. Alors, pour tout vous dire, Pauline, elle m'a coincée, hein, parce que je lui ai demandé de me trouver un bouquin, je ne savais pas quoi lire. Et elle m'a mis ce pavé de 1000 pages, 1046 pages dans les mains. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai pas regretté. Ce livre est magnifique. Et on rentre dedans et on n'a plus envie d'en sortir. Voilà. Donc, pourquoi, Pauline, tu m'as mis ce livre entre les mains ?
Alors, toutes mes excuses d'abord, Jacqueline, pour ce supplice des 1046 pages. Pourquoi ? Puisque, en fait, c'est un roman de Richard Power, un auteur que j'affectionne beaucoup, qui, comme dans beaucoup de ses romans, mêle petite histoire et grande histoire. En effet, le point de départ du roman se situe en mars-avril 1939. La contralto afro-américaine Marianne Anderson chante alors à l'occasion d'un concert organisé par Eleanor Roosevelt devant le Lincoln Memorial. Sa couleur de peau ne lui permet pas d'accéder à la salle qui était initialement prévue. Et ce concert n'a rien d'anecdotique puisqu'il a rassemblé 75 000 personnes à l'époque.
Alors, ce livre raconte donc la petite et la grande histoire, c'est-à-dire la petite histoire, c'est une famille mixte, ce qui est rarissime à cette époque aux États-Unis. La mère est afro-américaine et le père est allemand, juif, parti se réfugier aux États-Unis pour fuir le nazisme. Et ils ont trois enfants, deux garçons et une fille. Et c'est une famille, la rencontre, elle se fait justement au cours de ce fameux concert de Marianne Anderson où Delia et David se rencontrent et donc vont sceller une histoire qui va s'étaler après pendant 50 ans. Donc deux frères à un an de différence qui vont rentrer, mais alors de plein pied dans la musique et le chant. La sœur aussi, mais elle aura une trajectoire un peu différente. Et surtout, une vie très particulière, puisque ils sont non pas métis comme ils s'appellent, mais mulâtres. Donc c'est pas tout à fait le même mot. Et vont rencontrer des tas de personnages autour, avec et par la musique.
Sans concertation préliminaire, ceux qui étaient venus souhaiter les vœux de bonheur formèrent en chœur un crescendo soul à cinq voix. Bordé néanmoins d'une réminiscence en septième mineur qui, même dans la plus grande liesse, jamais ne disparaîtrait. Pour la première fois de sa vie, Strom se sentit entouré d'un halo de bien-être. Petite pause musicale.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa Malaika. zasumbua roho yangu.
Il y a un personnage qui est majeur dans ce roman, c'est la musique. Et franchement, moi, personnellement, je ne connais pas grand-chose à la musique, mais ce n'est pas très important parce que le texte, de toute façon, va vous emporter avec un rythme, justement, comme la musique, avec des écrits qui sont absolument fascinants. Moi, je ne vous lirai pas parce qu'il faut que vous le découvriez. Il y a un passage qui est absolument merveilleux où on voit donc Joseph, le plus jeune des garçons, à 7 ans, amené par son père dans un vieux monastère, écouter une chorale avec un enchantement incroyable. Et le descriptif, ça dure 3 pages, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, je ne vous le lis pas. Je le garde, vous le gardez sous la main quand vous aurez ce pavé entre les mains. Et puis, tous les passages sur la musique sont soit assez précis, voire techniques, mais c'est pas du tout gênant, voire plein d'humour, plein de sensibilité. Bref, c'est merveilleux.
Lorsque le violoncelle exécuta son da capo final, et que la double dégringolade des sopranos négocia son dernier virage relevé, le morceau s'acheva là où tous les morceaux s'achevèrent, dans la perfection du silence. Quelques auditeurs, déboussolés, commirent alors le pire des péchés luthériens, applaudir à l'église.
Voilà, donc la musique, Et puis quand même, on est aux États-Unis et quand même, un autre acteur omniprésent, c'est le racisme, les difficultés d'une part des Noirs, mais encore plus à la limite des métis, et ces enfants-là vont grandir avec ça en espèce de chape de plomb en permanence, mais dont l'aîné, par exemple, s'en sortira assez bien et se faufilera jusqu'au moment où il s'en sortira moins bien. Et puis, effectivement, la couleur de peau, elle est aussi omniprésente. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas un point de vue. On a vraiment les deux points de vue, puisque c'est une famille mixte, et on a le point de vue des Noirs et on a le point de vue des Blancs, et tout ça est parfaitement, équilibré.
Le visage de la mère se crispe. « Me parle pas de liberté, je te prie. Ton frère est mort à la guerre pour ce mot. Un Noir qui s'est battu pour que des gens dans d'autres pays obtiennent une liberté que lui n'aurait jamais eue dans un pays à lui, même s'il était revenu vivant. »
Donc, drame, humour, musicologie, on entre avec délice dans ce maelstrom sociologique, psychologique, générationnel, géopolitique, historique, impertinent, ironique. Bref, n'hésitez plus, lancez-vous. Et maintenant, je passe la parole à Olivier qui va nous parler d'un roman policier.
Et bien finalement, on va rester un peu dans la couleur noire, mais pas sur le même continent. On va aller en Afrique. Je vais vous présenter un livre qui n'est pas très récent, de Caryl Ferret. Il est de 2008, qui s'appelle Zoulou. Ouf, la dernière page tournée, je me sens vidé par la densité et la triste réalité décrite dans ce polar se déroulant en Afrique du Sud post-apartheid et pré-coupe du monde de foot. Après Aka, sorti en 1998, et Hutu, sorti en 2004, deux thrillers mettant en scène un policier néo-zélandais spécialiste des Maoris, Caryl Ferret a récidivé avec Zoulou, thriller diabolique et noir à souhait. Tout commence comme un polar classique, deux jeunes blanches de la haute société retrouvées assassinées et vraisemblablement violées. Deux jeunes femmes assassinées en peu de temps. Deux blanches qui plus est. Sordide crime racial ou affaire à un brin plus compliqué. Avec Caryl Ferret, on se doute que l'enquête va s'avérer bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Pour la résoudre, trois flics, un noir, deux blancs. Compétent, bien que profondément névrosé, paumé, ébranlé, meurtri. Ali Neumann, tout d'abord, chef de la police criminelle du Cape Town, vitrine de l'Afrique du Sud, gabarit d'armoire à glace, et sur le fil du rasoir depuis l'enfance, si l'on peut parler d'enfance. Ayant dû fuir avec sa mère le Bantoustan du KwaZulu après avoir vu son père, partisan de l'ANC, encore clandestin, pendu, et son frère aîné se faire torturer et brûler devant ses yeux par les miliciens de l'Inkatha. Bryam Epkin ensuite, son bras droit, borderline, quitté par sa femme à cause de ses nombreuses infidélités et dont la communication avec son fils étudiant est impossible. Dan Flechter, enfin 20 ans, dont la femme se bat contre un cancer. Des personnages soignés et approfondis, autour de qui gravitent des gamins des rues délaissées, des mafieux, des jeunes accros à toutes sortes de drogues. Neumann, qui, suite à l'agression de sa mère, enquête en parallèle dans les townships, envoie Bryam Epkin et le jeune Flechter sur la piste du tueur, sans savoir où ils mettent les pieds. Il démarre l'enquête du meurtre des deux jeunes filles de la bonne vieille riche société blanche, qui sont sous l'emprise d'une drogue de synthèse encore inconnue des labos de la police, avec deux mondes qui se télescopent. Noir, pauvreté, violence, versus blanc, fric, arrogance, oisiveté. En dépit de puissants relents de discrimination raciale, l'apartheid a disparu de la scène politique, il existe un lien entre les deux. La drogue. malgré la pression médiatique et la corruption, l'enquête va son train à peu près calmement. Jusqu'à ce qu'elle débouche sur un terrible barbecue à la machette sur la plage. Une scène à la limite du soutenable qui m'a laissé stupéfait. On bascule alors dans une autre catégorie, celle où tous les coups sont permis, avec cruauté hors norme et sans espoir de retour. Un autre monde, d'une violence à couper le souffle, d'autant plus terrifiant qu'il est réel. Le monde d'une Afrique du Sud pas encore guérie de l'apartheid et qui se soigne à coups de seringues, d'armes de guerre ou de haine raciale. Une immersion totale pour ce roman terriblement et effroyablement réaliste, d'une noisseur absolue. Entre drogue, sida, misère dantesque des townships, mafia, violence, meurtre, racisme. Caryl Ferret ne nous épargne rien et dépeint un bien triste tableau de l'Afrique du Sud, un pays déchiré, sans repère, à la dérive. Un roman fort bien documenté et écrit, violent, cru, sans concession, et qui vous foudroie. Grâce à ces descriptions, j'ai voyagé durant ma lecture dans ce pays encore à feu et à sang, qui tente de s'en sortir. Le climat social de l'Afrique du Sud a beau avoir évolué au fil du temps, la pauvreté et la misère sont toujours là. Peu de travail et pas assez payé, un contexte social très dur. Il ne fait pas toujours bon de vivre en Afrique. Ce n'est pas ce paradis légal dont l'aurait pu rêver après l'élection de Mandela. Le passé a laissé des traces indélébiles. La lutte interne entre opposants ont été aussi meurtrières que la répression du pouvoir blanc. Et la violence des blancs a trouvé une réponse dans l'opiniâtreté des noirs. Chaos et conflits ne se sont que déplacés, et ils existent toujours. L'apartheid n'est plus légal, mais il reste social. 18 000 meurtres par an, 26 000 agressions graves, 60 000 viols officiels, probablement 10 fois plus, 5 millions d'armes pour 45 millions d'habitants. Comment la première démocratie d'Afrique pouvait être le pays le plus dangereux du monde? Quel livre! Lisez Zulu. On ne ressort pas indemne de cette histoire ultra-violente, d'autant plus qu'on s'attache à ces personnages tourmentés et on se prend à espérer de tout cœur que la situation s'est un peu améliorée depuis. Un conseil, âme sensible, s'abstenir. Bien entendu, tous les livres évoqués se trouvent à la bibliothèque de Florac, ainsi que son petit dernier, L'Aide, sorti en 2021, nouveau thriller se déroulant ce coup-ci en Sibérie septentrionale.
Bonne lecture et à bientôt à la bibliothèque ou ailleurs.
Eh bien, au revoir à tous.
Bonne journée.
Des livres.
De la musique.
Des jeux.
Du cinéma.
Des animations.
Des événements.
Des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche. Une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.